I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fait avec amour, préparé avec amour. C'est binge audio, quoi.
Mes chers compatriotes, bonjour.
Salut, c'est Thomas Rozek. Aussi loin que je me souvienne, mais c'est sans doute vrai pour pas mal d'entre vous qui écoutez ce podcast, le façonnement de mes idées politiques, de mes engagements, de mes premières prises de conscience sont intimement liés au Front National. Alors je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. J'avais à peine 16 ans, le 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Et je me souviens parfaitement de l'ébullition de cette soirée-là passée au téléphone avec mes copains de lycée pour organiser dès le lendemain des manifs, une grève et tout un tas de mobilisations qui furent pour nous une initiation à la protestation. Ainsi, je me suis construit intellectuellement dans une vision des choses où l'ennemi ultime, le boss de fin, c'était Jean-Marie Le Pen, la figure ONI par excellence. D'autres ont pris le relais depuis, mais aucun et aucune n'ont atteint le stade de détestation dans lequel il nous a poussé, lui. Seulement voilà, à 92 ans, on peut sans trop s'avancer supposer qu'il ne tardera pas à quitter définitivement la scène. Et qu'est-ce qu'on dira de lui ce jour-là? C'est ce qu'on va se demander dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Monsieur Le Pen, je voudrais vous demander très simplement de vous définir, au fond, à travers votre vie politique. Quel homme êtes-vous?
Écoutez, je crois que je suis un homme d'action, un homme engagé dans la vie, un homme complet, j'ose le dire.
Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique.
Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux.
Dans le marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le marais de Picardie, on ne peut chasser le canard en février.
Je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie
politique. Des millions de morts, c'est un point de détail.
C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz.
Jean-Marie Le Pen, s'il devait rester un événement fort, un moment, une image de ses 40 ans de vie politique, ce serait quoi?
Je pense quand même du contour de l'élection présidentielle. C'est les happy few, si j'ose dire.
Cette réflexion, elle peut paraître macabre, elle l'est même peut-être un peu, mais elle vient d'un questionnement très concret. Autant on peut, quand on est journaliste, imaginer sans trop de peine les réactions et les commentaires à l'annonce du décès de telle ou telle personnalité politique, autant pour Le Pen, les choses sont bien plus compliquées. Le ton ne sera pas à l'hommage, comme c'est le cas d'habitude, mais en même temps, impossible de ne pas en parler. Bref, tout ça est très flou. J'ai demandé à mon confrère Dominique Albertini de Libé, qui a beaucoup écrit sur le FN, si lui s'était déjà posé la question de ce à quoi allait ressembler cette journée.
Oui, bien sûr, je me la suis posée à plusieurs titres. D'abord pour m'être intéressé depuis longtemps au Front National, qui est devenu le RN, pour avoir rencontré Jean-Marie Le Pen à quelques reprises, et pour avoir été celui qui aurait pu écrire la nécrologie de Jean-Marie Le Pen. Dans la presse, souvent, on écrit très longtemps à l'avance les articles sur la mort de certaines personnalités, et Jean-Marie Le Pen fait partie de ces gens dont il faut avoir, dont tout bon journal doit avoir en réserve le papier qui commentera son décès. C'est pas moi qui l'ai écrite, finalement. Elle a été écrite par un autre journaliste de Libé qui le connaît très bien, mais ça m'a forcément poussé à m'interroger sur ce que, moi, je dirais de lui le jour où il partira.
Et du coup, la réponse, qu'est-ce que tu t'es Qu'est-ce que tu t'es imaginé, même si forcément, là, on est dans la prospective, la réalité sera peut-être différente, mais qu'est-ce que tu t'es imaginé ?
Sur la façon dont on parlera de lui, j'allais dire, en fait, moi, ce que j'en aurais dit, j'aurais fait un rappel, mais très long, très très long, à l'échelle de sa carrière, de tout ce qu'a été la vie de Jean-Marie Le Pen. Il est né, je crois, en 28, à moins que ce soit en 27. En tout cas, ça fait un énorme morceau d'histoire à raconter, de République, des épisodes qui sont familiers à chacun. Après, se poser la question de ce qui sera dit de lui, sans vouloir surthéoriser, ça pose la question de qui parlera de lui et quand est-ce qu'on parlera de lui. Que diront les journalistes est un sujet. Et au fond, je crois que ce qui sera dit de lui le jour de son décès, on peut tous à peu près l'imaginer. Et là, je parle du discours médiatique officiel. Le rappel de sa carrière, le rappel des grands tournants qu'ont été ses paroles sur les chambres à gaz, sur Durafour crématoire.
Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu.
2002, la rupture avec sa fille, c'est des grands épisodes qui vont forcément scander les récits qui seront faits de lui. Après, il y a la question de la mémoire populaire de Jean-Marie Le Pen. Qu'en diront les gens, entre guillemets ? Il y a la question de la mémoire historique de Jean-Marie Le Pen. Qu'en diront ceux dont le métier est de produire un récit historique ? Qu'en diront-ils maintenant ? Qu'en diront-ils dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Et ce sont des sujets tout à fait différents, évidemment.
Moi, ce qui m'a poussé à m'interroger là-dessus et à imaginer cet épisode, c'est évidemment les différentes séquences médiatiques qu'on a connues autour de grandes disparitions de personnages politiques importants ces dernières années. Je pense Michel Rocard, Jacques Chirac, tous ces politiques qui sont décédés, qui étaient des personnages importants publics. Ce que je me dis, c'est que Jean-Marie Le Pen, certes, est un personnage public important dans l'histoire politique française, mais il a une place très particulière et normalement, il échappe à ce logiciel de l'hommage qui fait qu'on gomme un peu les aspects polémiques ou un peu négatifs du personnage pour ne garder que le positif. Là, pour le coup, ça va être difficile de faire la même chose.
Impossible de ne pas en parler. Impossible, effectivement, d'en parler sur le registre des gens que tu as cités, à commencer par Chirac, par exemple. Ça va poser énormément de problèmes. Ça en posera d'ailleurs, là, on pense beaucoup aux gens qui ont des raisons d'en vouloir à Jean-Marie Le Pen, ça en posera peut-être d'abord à sa propre famille, et je veux dire par là à sa famille au sens propre, et à sa famille politique, qui lui doit à la fois énormément de choses et qui a quand même fini par le mettre dehors. Donc la réaction que je suis le plus curieux d'entendre, quelque part, c'est celle de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Mmh. Où là, pour le coup, il y aura probablement la tentation de ne retenir que le bon, si je puis dire, de Jean-Marie Le Pen, celui d'une sorte de lanceur d'alerte sur les sujets de l'immigration. Cette parole-là, elle viendra, c'est certain. Ensuite, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen, quelque part, s'est déjà éloigné de nous. Il n'a plus le rôle qu'il a eu dans la vie politique il y a quelques années, c'est une évidence. Il est dans une position de commentateur. Il est installé là où il intervient, je pense aux chaînes de télé, aux chaînes de radio, dans la position d'un grand-père, quelqu'un d'un peu débonnaire, assez souriant d'ailleurs, avec des bons mots, un type assez rigolard, hein, au fond, quand on le regarde intervenir, c'est détente, hein, Jean-Marie Le Pen, sur un plateau de télévision. Et le phénomène que tu décris est juste. À mesure qu'il s'éloigne de nous comme personnalité politique, s'installe un autre personnage qu'il est peut-être plus simple de prendre à la légère. Mmh. Et de voir effectivement comme une figure un peu gauloise, à la parole libre. Et au fond, est-ce qu'elle est plus scandaleuse, cette parole, que celle d'un Zemmour, que celle d'un Onfray ? Il y a aussi une égalisation de l'outrance verbale qui est en train de se produire, qui fait que Jean-Marie Le Pen est avalé dans une masse de commentateurs plus radicaux les uns que les autres, et que lui, il nous apparaîtrait presque comme quelqu'un d'assez acceptable dans l'histoire. Oui, il va y avoir cette tentation de l'anecdotisation ou du peinture l'uraf de Jean-Marie Le Pen en symbole d'une époque où la parole était encore libre. Et quand on aura dit ça, le risque, c'est d'oublier évidemment que Jean-Marie Le Pen, ça a été celui qui a installé au premier plan du discours politique le registre de l'antisémitisme, d'un racisme exprimé de manière extrêmement directe. C'est cette partie-là, évidemment, qu'il s'agira aussi de faire valoir par rapport à la tentation de l'image du bon grand-père.
Aussi, ce qui va être intéressant à voir, des personnes ou des personnalités qui, aujourd'hui, utilise un vocabulaire qui ne déplairait pas beaucoup, ne doit pas déplaire énormément à Jean-Marie Le Pen. Je pense à ce terme d'ensauvagement qu'on entend dans la bouche des personnalités au gouvernement en ce moment. Comment ces personnalités-là vont en parler ? Ça aussi, ça va être intéressant parce que, à la fois, le discours a infusé, mais sa personne sera certainement pas revendiquée à ce moment-là.
Non, je crois que l'héritage de Jean-Marie Le Pen et sa personne, je ne vois pas qui aujourd'hui a intérêt à le revendiquer. Il est empoisonné, sauf pour une marge très radicale de l'extrême droite elle-même. Il y a un gros point d'interrogation sur ce que dira ou fera le Rassemblement national. Donc non, ce ne sera pas revendiqué, il n'y aura probablement pas d'hommage national. En revanche, il y aura un héritage politique, un héritage dans le lexique, dans la vision du monde, qui lui est amené à rester.
Il y a un aspect, par ailleurs, qui est extrêmement déstabilisant par rapport à Jean-Marie Le Pen, c'est que qu'on le connaisse ou pas, qu'on l'ait déjà rencontré ou pas, quel que soit notre degré de connaissance du personnage, si c'est seulement à la télé, on va dire, vu à la télé, on a un rapport qui n'est pas le même qu'avec les autres personnages du champ public.
Ouais, je vais parler de ceux qui ne le connaissent pas, puis de ceux qui l'ont rencontré. Quand on ne le connaît pas, je pense malgré tout que le rapport qu'on a avec lui est de l'ordre de l'affectif, de l'intime. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'on aime Jean-Marie Le Pen, mais qu'on est sur le registre de l'émotion spontanée, qu'il évoque en nous un monde de sentiments, peut-être de souvenirs, qu'on ait défilé contre lui, par exemple, ou qu'on ait râlé contre lui en public. Mais ça nous rattache à un certain nombre d'émotions et de souvenirs vécus, intimes, qui font que le lien qu'on a avec lui est tout à fait particulier. Il a été un personnage de la vie de beaucoup d'entre nous, et il a suscité en nous des choses beaucoup plus puissantes que la plupart des hommes politiques. Qu'on le veuille ou non, nous sommes liés à lui, et donc notre rapport à lui sera sur le mode de l'intime, de l'affectif, et nous éprouverons peut-être des choses étonnantes au jour de sa mort, en faisant remonter en nous ce genre de choses. Maintenant, pour ceux qui l'ont approché, ce qui est mon cas, et celui de beaucoup de journalistes, l'expérience est toujours troublante, parce que passer un moment avec Jean-Marie Le Pen, c'est souvent passer un bon moment. C'est évidemment curieux de le dire, mais Jean-Marie Le Pen est un personnage sympathique, cultivé, souvent drôle, et on sort d'un rendez-vous avec lui en s'étonnant, en se surprenant à avoir passé finalement une heure intéressante, presque agréable. C'est évidemment très compliqué de mettre en rapport cette expérience vécue avec la réalité idéologique et historique du personnage. Donc on va peut-être être beaucoup à avoir un peu le cul entre deux chaises, ou en tout cas les idées un peu en vrac au moment d'évoquer sa mémoire.
Le dernier élément qui m'interroge, moi, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est comment faire, même si je ne sais pas si on peut faire quelque chose, mais comment faire pour éviter que, à l'image de Chirac ou à l'image de tous ces personnages des années 80-90, dont il fait partie, Le Pen, comment faire pour éviter qu'il devienne une figure de pop culture, une figure sympathique, qu'on cite en référence, qui devient une espèce de même vivant, on va dire. Voilà, décorrélé totalement de ce qu'il représente politiquement et de sa stratégie politique et de sa trajectoire politique et de son histoire politique.
Ça, c'est une question qui est absolument passionnante, parce que le mot de même est juste. Jean-Marie Le Pen, avant même son décès, est déjà, dans une certaine mesure, devenu une figure de pop culture. Cette tentation du même et de l'édulcoration, elle est déjà présente. Elle n'a fait que se renforcer à mesure qu'il a pris du champ par rapport à nous, et qui a l'impression qu'on peut en rire impunément. Ça n'a plus de conséquences. Je ne sais pas si on pourra l'éviter. Il faut être assez humble là-dessus. Quand on dit comment éviter que, je ne suis pas sûr que ce soit en notre contrôle. Hitler est un personnage récurrent d'une culture Internet qui, sans forcément le mettre en valeur, hein, le fait intervenir. On connaît sans doute la parodie du film La Chute, qui montre l'un de ses coups de colère devant les généraux, et qui, en sous-titre, lui fait dire tout et n'importe quoi, et tout le monde trouve ça très amusant. Est-ce qu'on évitera ça à Jean-Marie Le Pen ? J'en suis pas certain. Est-ce que ça peut contribuer à le rendre digeste, voire intéressant pour une partie de la société qui aurait pourtant pas du tout adhéré au discours qu'il a tenu pendant sa vie ? Oui, ça c'est possible. Comment on fait ? Information, éducation sur la réalité du personnage, de ce qu'il a représenté, travail rigoureux sur l'histoire de la part des journalistes et des historiens, mais quand même l'humilité de reconnaître que ça n'est pas tout à fait entre nos mains.
Outre les journalistes, ce sont évidemment les experts en Front National qui seront mobilisés ce jour-là. Et parmi eux, sans doute, l'historienne Valérie Igounet, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Elle connaît la trajectoire du parti et de son cofondateur par cœur. Je lui ai demandé si, à son avis, lorsqu'il disparaîtra, on retiendra de Le Pen le personnage médiatique, bruyant, outrancier, ou alors réellement le personnage politique.
Je crois qu'en fait, c'est un peu les deux, dans le sens que on sait que cet homme a avancé aussi par la provocation langagière, hein, par antisémitisme, etc. Ça, c'est clair, hein, par ses pseudo-dérapages. Et en même temps, il a construit un parti en 72, le Front National, qui s'est développé, qui a eu de plus en plus d'adhérents. Aujourd'hui, on le voit bien avec sa fille Marine Le Pen. Donc, je crois que c'est un peu les deux. C'est un parti qui s'est imposé. Et c'est vrai que cet homme a été très bruyant dans cette vie politique. Oui, c'est vrai.
Vous parliez des racines du parti, de là où il vient. Est-ce que ça va être l'occasion peut-être de rappeler, de revisiter le parcours intellectuel de ce parti qui aujourd'hui se veut assez respectable comme faisant partie de la droite classique, qui d'ailleurs n'est pas nouveau, c'est quelque chose que Jean-Marie Le Pen lui-même a pu dire dans les années 80. Mais est-ce que ça va être l'occasion peut-être de rappeler qui sont les fondateurs de ce parti et d'où il vient intellectuellement et idéologiquement ?
Alors, ce parti qui apparaît au début des années 70, il apparaît via un groupuscule qui s'appelle Ordre Nouveau. Pour vous donner une idée, l'emblème, c'était la croix celtique. Donc, ce parti ne cachait pas ses idées d'extrême droite radicale. Il y a eu pas mal de dirigeants qui ont eu des paroles qui étaient dans cette veine. Donc, il est né, de cette fusion avec Ordre Nouveau. Et c'est vrai que pour avancer, politiquement parlant, donc... Jean-Marie Le Pen a choisi de s'en détacher et a choisi de monter un parti, comme il dit, de droite nationale, populaire et sociale. Donc vous voyez, il fallait avancer, j'allais dire masquer. Après, c'est vrai que vu les idéologues qui se sont avancés au début de la construction et les cofondateurs, c'est vrai qu'il est évident qu'entre les anciens Waffen-SS, entre ces personnes qui se reconnaissaient antisémites, même négationnistes, je pense par exemple à François Duprat qui a très vite intégré les Assemblées nationale, c'est évident qu'entre les racines et le début du Front National, mais même après, il y avait des idéologies néo-nazies, antisémites, etc.
Vous parliez de ce détachement, cette espèce de ménage que Jean-Marie Le Pen a fait idéologiquement pour essayer de s'acheter une crédibilité politique, ou en tout cas une assise politique plus large. Il a subi un peu le même traitement de la part de ses héritiers au sein du Front National qui est devenu le Rassemblement National, avec cette guéguerre qu'on a pu suivre médiatiquement entre lui et sa fille. Sa disparition, ce sera l'occasion pour le RN de se débarrasser définitivement de ce personnage qui traîne un peu comme un boulet maintenant.
En 2011, au congrès de Tours, quand Marine Le Pen est élue, je reviens là-dessus, parce qu'en face d'elle, il y avait quand même un des grands cadres du Front National, qui est Bruno Gollnisch, donc elle est élue. Le patronyme Le Pen fonctionne, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des provocations langagères de Jean-Marie Le Pen, à un moment, il est exclu du parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de son décès ? Au fur et à mesure qu'on avance depuis le congrès de Tours, c'est vrai que les nouveaux, on va dire, mais ils ne sont pas si nouveaux que ça, Marine Le Pen, à Lyon, etc., sont venus très très rapidement au parti à partir des années 2010, vont certainement non pas vouloir nier le fondateur du Front National, mais comme vous dites, s'en débarrasser. On voit bien que là, dernièrement encore, Jean-Marie Le Pen a fait un tweet comme quoi il défendait Hervé Ryssen, qui est un pur antisémite, mais vraiment négationniste, pur jus. Et là, de nouveau, Marine Le Pen, Louis Alliot, on se sont détachés de Jean-Marie Le Pen. Alors, on sent que, depuis des années, il s'en détache, et même avant le congrès de Tours.
Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y aura pas la tentation, pour certains cadres du parti, de rappeler, d'entretenir la mémoire d'un personnage auquel les électeurs, en tout cas une partie de l'électorat du Front National, l'électorat traditionnel du Front National, est attaché?
Je pense à Bruno Gollnisch, par exemple, qui a été très très présent dans la vie du Front National. Lui, par exemple, c'est évident, et d'autres, d'autres anciens cadres aussi, même s'ils sont partis. Je pense par exemple à Karl Lang, je pense qu'il va revenir sur le parcours de Jean-Marie Le Pen, et ils vont certainement mettre en avant le côté élogieux de cet homme qui s'est évidemment imposé dans la vie politique. Alors ça, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui encore, j'allais dire, presque des admirateurs de, entre guillemets, ce grand homme politique.
Si la droite classique a empiété sur ses plates-bandes et a récupéré un certain nombre de ses thèses, personne, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que quelqu'un de la droite républicaine revendiquer l'héritage de quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen.
Ah non, c'est évident. Il y a un pas énorme entre emprunter, et puis il y en a eu peu, hein, et se revendiquer de l'extrême droite française, hein, du Front National, puisqu'on parle de ce parti. Mmh. C'est évident, il y a une opposition totale, et justement, par rapport à ces dérapages qui n'en sont pas, hein, par rapport à l'antisémitisme, par rapport au complotisme, par rapport à justement ces paroles très très bruyantes, hein, bien sûr, il y a une opposition farouche, républicain, extrême droite, bien sûr.
Dérapages qui n'en sont pas, on peut expliquer pourquoi vous soulignez ça ?
Si vous voulez, je pense qu'une des stratégies, comme je disais, de Jean-Marie Le Pen, c'est d'être bruyant. Il faut qu'on l'entende. Et comment on l'entend ? C'est pourquoi pas par ces paroles qui dérangent et qui sont très médiatisées. Donc je pense par exemple au détail, hein, qui a complètement bouleversé la vie du parti. Même certains ont dit que c'était terminé, hein, le Front National, même s'il avait évolué. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans sa carrière, à partir de 87, mais avant aussi, hein, je pense à certaines émissions télévisées, c'est vrai que régulièrement, cet homme a choqué l'opinion publique, et encore plus depuis qu'il n'est plus au Front National.
Et l'un des risques que j'entrevois avec sa potentielle disparition, c'est qu'on en fasse une espèce de figure sympathique, franchouillarde, d'un pays où on pouvait tout dire, ou d'une époque révolue, où sur les plateaux de télé, la parole était plus libre. Voilà, qu'il devienne cette espèce de figure de libre-penseur, et qu'on le vide de tout le sens politique et de la violence de ce qu'il pouvait tenir comme propos.
Alors moi, je ne pense pas du tout. Je pense que justement, ça va être certainement, hein, la reconnaissance d'un homme politique, hein, qui a marqué depuis les années 70 l'histoire, hein, politique française. Mais en même temps, selon moi, c'est certain même, je m'avance, hein, mais j'en suis certaine, que ce qui va être mis en avant, c'est justement ce diable de la République, hein, qui est justement le titre d'un documentaire, hein, c'est-à-dire cet homme qui avance, non pas masqué, et par des items, hein, par des mathématiques politique très très forte, hein, par des représentants, hein, qui sont là pour justement les dire à voix haute, etc. Donc je pense que ce patrimoine idéologique, au fur et à mesure que cette idéologie a avancé, et lui, au fur et à mesure qu'il s'y est conforté, je suis pratiquement certaine que non, on ne peut pas en faire ce que vous dites, non.
Bon, souhaitons-le, même si j'avoue que j'attends avec un peu d'appréhension quand même le traitement de cette disparition dans certaines émissions. On n'a déjà pas trop de mal à réclamer, entre autres, l'expulsion de la totalité des migrants mineurs. Merci à Dominique Albertini et Valérie Higounet pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.